Voilà, déjà la hiérarchie entre de l'âge, hein. Donc quand un tonton parle, même s'il a tort,
Il
il
a
a raison,
raison.
c'est comme ça. Alors qu'ici, un petit, s'il sait, il te répond, quoi. Et donc c'est quand même une autre mentalité. Bon,
Oui, faut être prêt
après,
à ça. Je pense que les gens
voilà.
qui retournent, faut pas penser
Voilà.
qu'à l'aspect
Faut
financier
avoir mené toute cette
et
réflexion.
politique et tout ça. Faut aussi voir le quotidien. Voilà, des petits exemples comme
Voilà.
ça,
Mais.
entre guillemets, des petits exemples bêtes, mais qui font que tu peux par la suite te sentir mal si
Très
tu penses
mal
que tu
assez
vas
vite, hein.
pouvoir. Parce que souvent, c'est des personnes aussi ici qui ont beaucoup, comme tu dis, tendance à, voilà, à donner leur avis sur tout, à aller sur tous les fronts. Et comme tu dis, normalement, en
Là-bas, calme,
général, à
calme,
la
hein.
base, dans les familles africaines,
Voilà.
tu.
On se
Donc
tait, hein.
voilà,
Il n'y a pas de
chacun
révolution.
a leur
Déjà,
place,
quand on
hein.
mange avec les anciens, déjà, on a la chance. Sinon, on mange dans un coin et puis il faut que
Voilà,
les
on mange
anciens
à la
mangent.
petite table.
Voilà, la petite table, il faut que les
Mais
anciens
la
mangent
table
avant
des
que les
enfants.
enfants aient mangé.
Moi, j'aimerais jeter un pavé
Oui, vas-y,
dans
hein, on est
la
là pour
mare,
ça.
c'est que ces personnes, bien que se définissant comme africains, elles sont profondément imprégnées de culture Oui, c'est
française.
vrai, c'est
Et
vrai.
donc, j'ai l'impression, moi, c'est pour discuter, pour mettre des problématiques. Est-ce que le panafricain français n'est pas le nouveau cheval de Troie de l'Occident? C'est-à-dire que l'Occident ne pouvant plus passer par
Normal,
la
on va
porte, reformuler parce que j'ai mal à la tête là. Est-ce que le
Dieu
panafricain
n'est pas
n'est
le
pas le cheval
cheval
de
de Troie
Troie
de
de
l'Occident. C'est-à-dire
l'Occident?
qu'on se plaint de l'occidentalisation de l'Afrique,
Oui.
mais tous ces panafricains qui viennent de France, ils viennent avec quel esprit, avec quelle mentalité, si ce n'est celle de l'Occident? Est-ce que ce n'est
Dans
pas...
leur inconscient, il y est.
Voilà, c'est
Oui,
ça que
mais
je veux
il y a
dire.
beaucoup d'Africains justement qui se plaignent que justement les personnes qui
Oui.
viennent d'Europe là-bas, qui viennent pour changer les choses, bon bah pour parler, pas non plus trop m'étaler, pour parler simplement, qui viennent pour changer les choses, ils trouvent qu'ils ont un peu une attitude de donneur de leçons souvent. Parce que aussi, c'est des personnes voilà, qui ont aussi en plus fait des hautes études,
Voilà.
etc. Et donc, du coup, qui viennent leur sortir C'est
aussi des
voilà.
concepts qui ne leur parlent pas forcément et qui sont peut-être parfois
Moi, je vais
pas
prendre un
forcément
exemple
adaptés
concret
au
pour
terrain.
aller dans le
Donc.
sens de ce que vous dites. Ici, quand je vais faire mes démarches administratives, je prends un ticket, je m'assois, on m'appelle, je fais mes démarches administratives, je rentre.
Voilà.
Là-bas, déjà, il y a la queue.
Eh, quelques.
La queue est là depuis tard, les gens sont là. Puis il y a des gens même qui négocient la place, ils mettent des cailloux, et puis ils te louent la place. Ah, tonton, tu veux passer, donne-moi 50 francs, enfin, donne-moi 500 francs, je te donne ma place. Parce qu'il est venu attendre depuis avant. Bon, on me dira ici à la préfecture aussi, on attend avant qu'on mette les rendez-vous. Et je discutais avec un jeune cadre africain qui me disait, mais né là-bas, qui a tout vécu là-bas. Il disait, nous, on a des problèmes justement par rapport à ce que vous dites là, aux gens qui arrivent, qui viennent donner des leçons. Parce qu'ici, nous, on a nos codes. Il dit, par exemple, moi, je suis venu du village. Mes parents étaient planteurs. Grâce à la bourse, j'ai fait des études, je suis devenu cadre dans l'administration. Maintenant que je suis cadre dans l'administration, je suis chef de service dans une administration où on délivre des documents. Le vieux qui est au village, dans mon village, il ne peut pas admettre venir prendre un document à la capitale et faire le rang comme tout le monde en sachant que son bon petit est chef.
C'est ça.
Si je mets en place, je dis, ah, le vieux, quand tu viens, tu passes me voir directement. Qu'un gars qui est né ici le voit, il va dire, eh, voilà encore ça, c'est la corruption, il faut n'importe quoi. Je dis, mais moi, si je ne le fais pas passer, je fais une rupture avec tout ce qui me lie au village.
Voilà.
Et quand je vais aller le week-end au village, on ne va pas me
C'est
recevoir.
ça.
Pourtant, je suis un notable, un cadre du village. Donc ça, il y a une part culturelle que on ne peut pas détruire avec cette rigueur à l'occidental où il faut faire ci. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que il faudrait quand même faire une analyse culturelle de comment ça se passe avant de venir de but en blanc dire ah non, c'est comme ça. Parce que la corruption. Moi j'ai vu, il y a des gens, par exemple, tu as un marché. D'habitude, le gars, il met 3 semaines avant d'avoir son marché. Tu te déchires, le gars, il a eu son marché avant une semaine, il va te mettre un petit billet. Toi, tu vas dire non, le gars, il essaie de m'acheter. Mais le marché est déjà obtenu. En fait, le billet, c'est un remerciement. C'est comme
C'est
si tu avais
ça.
acheté un cadeau. Mais bon, dans la culture, ça passe. Mais
Voilà.
ici,
Mais si t'as pas
c'est même pas
ça,
la
c'est
peine.
ça. Mais c'est ça. Mais en fait, il y a des choses que construire l'Afrique depuis l'Europe et après se déplacer pour l'imposer. Les mêmes problèmes qui se sont passés au Liberia quand les Américains sont partis au Liberia. C'est-à-dire que finalement, ce sont les néocolons. Bah, comme ils sont noirs, bah, ça
Ça
passe.
passe.
Mais en fait, c'est pour ça que je dis cheval de Troie de l'Occident, puisque c'est l'Occident, en fait, sous une autre forme.
Qui
parce
les a
que
formés, quoi.
Ils ont été élevés avec les cornflakes, ils sont allés à l'école, l'éducation nationale.
Ça passe que c'est une coupure de courant.
Etc. Donc, fondamentalement, même si la personne, elle met son boubou et elle dit je suis africain, fondamentalement, il y a une différence avec ceux qui ont réellement vécu sur le terrain pendant de longues années et on vient leur bouleverser. Moi, je prends le cas, par exemple, du féminisme.
Oui.
Il y a une vision de la femme qu'on a ici, de la liberté qu'on a ici, qui n'est pas forcément, qui ne cadre pas avec la réalité. Par exemple, moi, je prends le cas du Congo, parce que moi, je parle avec des femmes qui ont formé un groupe de femmes au Congo,
oui,
entre guillemets féministes, selon leurs critères à elles.
Mm-hmm.
Mais on voit qu'elles sont toujours, par rapport, dans leur rapport aux hommes, dans une certaine hiérarchie qu'elles revendiquent. Et c'est comme ça,
elles
c'est leur culture. C'est leur culture, on n'a rien à dire. Moi, j'y vis pas, donc j'ai absolument rien à dire.
Mais toi, ça te surprend.
Non, ça ne me surprend pas. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois toutes ces personnes qui veulent, sous couvert de matriarcat, imposer une vision très occidentale des rapports hommes-femmes, moi, je trouve que c'est un danger, parce que c'est finalement une occidentalisation invisible, mais qui existe quand même. Et finalement, c'est toujours l'Africain qui vit là-bas, qui va en pâtir et dont on n'entend pas la voix. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on se dit, on va plutôt prendre les avis des Africains d'Afrique et essayer, nous, de les aider à mettre en œuvre, même si ça ne correspond pas à notre vision qu'on a eue depuis la France.
Mais est-ce que tout ça, ça ne vient pas de l'universalisme de l'Occident, comme tu as dit, que certains rejettent et se disent « je vais aller là-bas », mais depuis leur naissance, ils en sont imprégnés.
Oui.
La culture occidentale est là, c'est dans l'inconscient, hein, parce que c'est des gens qui ont peut-être beaucoup lu, qui ont quand même cette volonté de...
L'Afrique, ça se lit pas, ça se vit. Il y a un moment, on peut pas s'inventer africain de ça parce qu'on a lu 3-4 bouquins.
Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas cet universalisme là qui est dans l'inconscient? Parce que je vois, on est imprégné, c'est-à-dire que c'est eux qui décident ce qui est bien. On regarde au niveau musique. Par exemple, je discute avec ça, c'est un débat que j'ai avec Choco. Est-ce qu'il faut forcément savoir lire la musique pour faire de la bonne musique? Donc aujourd'hui, elle a essayé de comprendre un peu, elle a vu des accords en guitare, etc. Elle me dit, si, chef du village, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand elle n'a pas des codes de... Je dis, moi les gars qui sont au village, qui ont pris leur guitare, on leur a envoyé la guitare, on leur a envoyé la batterie, et qui sortent des sons proches des sons du village avec ces instruments modernes. Ils sont pas allés à l'école, hein.
Mais je te prends le cas même des voitures.
Ouais.
Quand on envoie des voitures ici qui sont inutilisables, tu les envoies au pays, elles roulent.
Elles roulent encore 20 ans.
Il y a une vision très occidentale du savoir, c'est-à-dire passer par l'écriture, passer par quelque chose de formel. Or, dans les villages, ça peut être l'oral, ça peut être beaucoup de choses, mais qui vont être négligées ici. C'est-à-dire, moi, je trouve que... Il y a ce danger, je dis pas, il y a des choses bien dans le panafricanisme, mais il y a ce danger de vouloir occidentaliser les valeurs et de dire c'est universel et nous on vous les impose sous prétexte de vous
aider. Parce qu'ils ont beaucoup réfléchi sur le sujet, ils ont tellement réfléchi sur le sujet que ça ne peut être que...
Voilà, en fait. Mais ça, cet état d'esprit, c'est bien la colonisation. J'ai la vérité, je te l'impose pour t'aider.
Vu que tu es malheureux.
Voilà, vu que
tu
es malheureux.
Puis alors tu échoues dans tout, tu as les maladies, la guerre, tu as la famine.
N'aurait peut-être rien demandé, en fait.
Et en fait, c'est même comme tu dis, c'est vrai que ton analyse est quand même pertinente parce que...
Toujours.
Tous les bons, ouais, toujours. Ça, on peut le dire, Joe est modeste, on va l'appeler
Narcisse.
Modestie. Effectivement, c'était le but de la colonisation. C'est-à-dire qu'on allait piller l'Afrique, mais on disait, on va aller civiliser ces bons sauvages qui savent rien. Et là, c'est peut-être de dire... Ces pays sont si malheureux qu'on va aller là-bas, on veut leur apprendre les bonnes choses, on va leur donner les bonnes règles, ils sont assis sur des mines d'or et avec ces règles, ils se développeront.
Mais quel orgueil de faire les États-Unis d'Afrique, d'élire des ministres des États-Unis d'Afrique à Paris. Je trouve ça, mais d'un orgueil sans nom. Des gens qui vont pas forcément mettre les pieds en Afrique, qui n'ont peut-être même pas l'attention, ou alors il va faire un peu semblant.
Il va faire un peu d'aller-retour.
Est-ce qu'un jour, ils se sont dit, comme on fait une étude de marché, on va aller en Afrique, on va recueillir les besoins des Africains?
Non.
C'est nous, on sait. Couvrir.
Nous, on a la bonne parole et on va vous la donner. Ouais. Parce que de toute façon, vous ne réussissez pas. Donc avec voilà. nous, vous pourrez réussir. C'est vrai. Ça, c'est très, très pertinent. Et on va rajouter comme d'habitude. Et donc, on a pris la deuxième partie du débat par lequel on avait commencé avec les Afropéens, puisqu'on disait qu'il y avait un souci d'identité par rapport à l'identité française. Comment on se situe? C'est-à-dire que, bon, on va prendre le fait que les Panafricains, eux, leur problème est réglé puisqu'ils disent nous on va retourner en Afrique.
Oui, moi la plupart des Panafricains c'est ce qu'ils disent. Bon, en tout
donc
cas.
Par rapport après, à l'identité française,
oui, généralement,
on peut dire que eux ils sont de passage et s'ils ont trouvé leur voie ils rentrent en Afrique.
Voilà.
Donc ils sont pas concernés par l'identité française. En revanche ceux qui sont afropéens donc noirs on va le dire qui vivent ici, qui sont nés ici, qui ont leurs enfants ici et qui vont en vacances en Afrique comme certains vont en vacances au bord de la mer ou en cuisine africain, eux leur problème d'identité il est prégnant quand même. Hein.
Bah, moi, je me définis plus comme bon, afro-descendante ou afro-péen, c'est un peu bon. Moi, je suis tout à fait dans cette lignée-là. Je ne sais pas si ça plaît ou pas, mais bon, je suis plus dans cette lignée-là. De me dire, voilà, je suis plus dans un constat de réalisme et de me dire, ben moi, voilà, je vis ici et j'ai l'intention de vivre ici. Donc, autant que mon avenir et ceux de mes enfants soient beaux, quoi, en tant que construire quelque chose de solide ici. Et si, par ricochet, je peux aussi aider l'Afrique, c'est aussi ce que je ferais. Mais moi, je vis ici, il y a des Noirs qui sont ici, il y a même des Africains qui viennent d'Afrique pour vivre ici. Et c'est leur quotidien, en fait, que je veux améliorer, c'est leur place dans la société que j'aimerais améliorer. Moi, c'est comme ça que je vois les
mais
choses.
De toute façon, même celui qui compte retourner en Afrique, je ne sais pas moi, d'ici 10 ans ou d'ici combien d'années, entre-temps, il habite ici.
Entre-temps, voilà. Il habite ici. Mais
il
dépose jamais ses valises, en fait. Puisqu'il dit, moi, je suis là de passage. Tout ce qui ne va pas, ou partout où il échoue ici, il se dit, toute ressemblance avec personne existait ou il a existé, ne serait que fortuite. Hein. Il se dit, même si je galère ici, même si j'échoue ici, le jour où je rentre, ça sera le bonheur.
Bah,
je sais pas comment tu vois, il projette en fait ce qu'il n'a pas réussi.
Bah, il y a une certaine idéalisation aussi
de
l'Afrique, c'est-à-dire que oui, l'Afrique, quand je vais y tourner, je serai le roi là-bas, etc. Alors qu'on peut aussi.
Je prends l'exemple caricatural, c'est les Moud-Moud. Hein.
Les
Moud-Moud.
C'est
ce
quoi,
sont les Sénégalais
Moud-Moud
qui vendent dans les marchés là.
Qui vendent des ceintures là ?
Ils vendent des ceintures, on les appelle les Moud-Moud. Hein.
Ah, ok,
donc, ils font le tour de l'Europe, ils vendent. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, vous voyez le foyer à Gerland. La grande tour blanche à Gerland, métro de Bourg, ils y vivent. Donc, ils vivent dans 9 mètres carrés tout au long de l'année, mais il paraît qu'ils ont des châteaux là-bas. Donc, eux, ça a du sens. Ils sont vraiment venus vendre, prendre les euros.
Oui, ils sont venus faire leur business et puis ils s'en vont.
Alors que le gars qui est venu faire des études, bon, les études là sont. Ça va pas. Il commence à faire les métiers alimentaires, mais il continue à soi-disant faire ses études ou lire, et puis il garde le contact avec la politique là-bas. Il dit, je vais retourner un jour. Finalement, il atteint 60 ans, il n'a ni réussi ici, ni là-bas. Et ça fait un aigri permanent.
Bah, c'est un peu la génération de mes parents. Hein. Tous, ils ont dit, on va retourner. Bah,
oui, puis ils ne sont jamais retournés. Sont
là,
quoi.
En tout cas, on est là, on est calés.
Voilà,
nous, pas bouger. Comme dirait Zalif Keïta. Je pense que le plus difficile, c'est de se dire, j'y suis. Et j'y reste.
Mais c'est très difficile parce qu'il y a une relation très conflictuelle entre la France et l'Afrique.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est difficile de se positionner, de dire « moi, je suis français, fier de l'être et je veux vivre ici ». C'est quand même très difficile d'assumer cette position.
Joël a donné son point de vue par rapport à ça, qui est un point de vue original qu'on n'entend pas trop. C'est pas trop à la mode, hein, ce que tu dis. Mais c'est, comme
c'est,
on
pas,
dit, comme...
c'est pas à la mode, mais...
Peut-être
c'est
que beaucoup le pensent, mais
c'est dire. Juste parce que les personnes qui le pensent ne vont pas forcément...
On les écoute pas, ils n'ont pas...
Non, c'est qu'il n'y a pas forcément une plateforme pour ça, puisque à l'heure actuelle, on parle beaucoup justement de panafricanisme.
D'accord.
Et en fait, t'as l'impression aussi qu'un peu les personnes qui se revendiquent pas panafricaines... sont pas forcément pour la cause noire, sauf que on n'est pas obligé d'être panafricain pour être
pour la cause noire.
Pour être pour la cause noire.
Donc nous on va être la voix des sans voix à cette occasion. Le discours qu'elle tient, pourquoi je fais le lien avec ceux dont nous sommes partis sur la notion de la France qui ne sait pas comment définir les identités des gens qui ne sont pas blancs.
Oui.
On est parti un peu de ça, débat sur l'identité nationale, est-ce qu'on est français et qu'est-ce qu'on appelle l'identité française, c'est bien précisément ça. Donc les panafricains, eux, leur cas est réglé puisque eux, ils veulent retourner en Afrique pour définir leur identité, ils la définissent par rapport à ça. Et ceux qui sont afropéens, quelle place on peut leur trouver en France on va prendre le problème qui peut venir de notre côté, c'est-à-dire qu'on imagine que les tenants du pouvoir n'ont pas intérêt à ce qu'ils trouvent leur place. Mm-hmm. Hein, tout est mis en œuvre pour qu'ils ne trouvent pas leur place. On dit on lutte contre la discrimination, mais ça me fait penser au mm-hmm. débat avec Dominique Sopo qu'on avait eu à l'occasion de la table ronde sur les discriminations. Il a dit la lutte contre les discriminations, on pense souvent que c'est les premiers concernés qui en parlent, mais en réalité, il y a des gens qui ne veulent pas que les discriminations disparaissent parce qu'ils y préservent leur petit pouvoir. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils se reproduisent entre eux. Mmh. Et ils n'ont pas intérêt à ce que ça change, même s'ils disent ouais, c'est n'importe quoi la discrimination. Mais dès qu'on commence à bousculer des choses qui ne vont pas dans leur intérêt, où ils perdent leurs privilèges.
Oui, parce qu'ils voient du coup dans le quotidien comment ça les bouscule.
Voilà, ça les bouscule. Ces gens-là, ils disent non, ben, finalement, on va rester comme on est, c'est pas si facile. Voilà. Donc, je reviens à la notion de l'identité française. Mmh. Comment les Afropéens ou les Afro-descendants peuvent trouver leur place sur ce territoire-là? Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui sont faites, hein. En fait, on ne le voit pas, mais au quotidien...
Comment je dirais...
Parce que sur le fait d'être noir en France, par exemple, je vois par exemple le combat que vous menez sur vos deux plateformes, si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, il y a une affirmation identitaire.
Oui.
Quand on prend le colorisme, le colorisme allait dans le sens de l'assimilation.
Oui.
Soyons plus clairs, ayons les cheveux lisses, etc.
Aujourd'hui, un peu du modèle
de la norme.
Oui, voilà.
Définie par la majorité. Mmh. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette norme est bousculée. Il y a des gens qui disent je suis d'ici, mais j'ai pas le même aspect que vous.
Ouais, oui, et puis ça. C'est tout.
Et mais il y a même pas l'aspect. Il y a aussi, par exemple, ceux qui portent le voile. C'est-à-dire qu'on définit pas l'identité française, mais quelque part, on la définit quand on dit, par exemple, que les mamans qui sont voilées peuvent plus accompagner leurs enfants en sortie. Bon, ben, quelque part, il y a une définition de l'identité française.
Voilà,
qui
pour
est,
être français, il ne faut pas mettre le voile.
Bah, c'est quand même ce qui est dit.
Indirectement.
Voilà.
D'accord.
Indirectement.
Ok. Donc, c'est vrai que face à ça, on a ce problème-là. Donc, comme tu disais en début de débat, il faut peut-être qu'on pose les choses clairement, à plat, calmement, avec objectivité. Pour pouvoir en parler sereinement. Donc on va terminer un peu sur cette question avec ce qu'Aya Nakamura a dit. Le racisme, la France n'est pas un pays raciste.
Mais elle n'a pas l'habitude de voir une artiste noire.
Alors, qu'est-ce que chacun peut en dire?
Alors moi déjà, je dirais que ce n'est pas la première artiste noire. Hein.
Il y a eu franchement,
Princesse Erika, Zouk Machine,
Joséphine Baker,
Terry Moïse, enfin bon quand même.
En plus, avant elle, il y a eu Noir n'est pas mon métier, donc il y a eu tout un panel d'actrices noires.
Ouais, je me rappelle.
Voilà. Moi, Aya Nakamura, franchement...
Là, elle est à côté de la plaque.
Franchement, je vois... En fait, dans quel contexte est-ce qu'elle a sorti cette phrase? Est-ce qu'on lui a posé une question? C'était quoi?
Alors, moi, il me semble que c'était quand même une phrase parmi un long interview quand même. C'était pas le sujet principal.
C'est sorti de son contexte, peut-être.
Ah oui, tout à fait. C'est une phrase sortie de son contexte. Et puis, elle a parlé pendant un temps assez conséquent. Donc, forcément, au bout d'un moment, on se lâche un petit peu. Et puis, elle doit vendre. C'est-à-dire, c'est une artiste, elle est là pour vendre, elle n'est pas là pour militer pour la cause noire. C'est les personnes qui achètent, c'est tout le monde. Donc, elle ne peut pas se permettre de braquer une partie de ceux qui achètent. Et donc, venant d'elle...
En tout cas, pour l'instant.
Pour l'instant, parce que sa carrière n'est pas encore prononcée.
Parce que quand même, je trouve qu'en France, les artistes, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément là pour représenter les Noirs, mais de toute manière, que tu le veuilles ou non, tu es noir, donc tu es quand même une certaine vitrine, si je puis dire,
des
Noirs. Donc, en général, les Noirs en France, au niveau de la télé, etc., ils ne se mouillent pas trop. Mmh. Et là, elle, sa carrière n'est pas encore vraiment... c'est en train de décoller, puisqu'on l'a vu New York Times, on la voit de plus en plus, elle est invitée sur les plateaux télé, etc. Je sais pas si elle est à un moment où elle peut parler. Et après, moi, est-ce que elle, c'est une personne qui aborde ces genres de sujets? Moi, j'avais vu une interview d'elle il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, je sais plus, où elle disait qu'elle en a marre qu'on lui parle du fait qu'elle soit noire.
Oui, elle a qu'elle est originaire du Mali, ou je crois comme ça, on lui parlait de ses origines, de Bamako, ou je sais pas quoi.
Oui, voilà, qu'elle en avait marre qu'on lui parle de ça, que c'est pas ça qui l'a définie, etc.
Tout à fait.
Donc après...
Après, elle est dans le showbiz, comme on dit. Hein. Elle joue un rôle. Peut-être qu'en privé, elle dirait complètement autre chose. Et puis là...
Elle veut vendre, donc
Elle ne peut pas se tirer dans le pied.
En tout cas, pas tout de suite.
Pas tout de suite. Voilà. Donc on retient qu'il y a les Afropéens, il y a les Panafricains. Et puis dans tout ça, la France, elle ne sait même pas où elle en est, parce qu'elle ne sait pas comment définir ces Afropéens et cette nouvelle identité nationale qui n'est plus celle qu'on avait dans les années 1900 ou les années 30. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus évolué, donc il est temps temps qu'on réforme un peu le logiciel. Il y en a qui font des mises à jour pour autre chose, mais là, il faudrait faire des mises à jour de ce fameux logiciel d'identité française afin que les Français eux-mêmes sachent où ils en sont, et ça éviterait peut-être certains votes qu'on a observés lors de ces dernières élections européennes. Et puis, il y a un élément qu'on pourrait retenir pour un prochain mardi, c'est... le militantisme et le business communautaire, hein, parce qu'on l'a vu frôler à Yana Nakamura. Elle dit, moi, je vends mes disques à tout le monde dans vos histoires là. Vous êtes bien gentil, mais pour moi, c'est pas important. C'est un peu ce qu'elle dit.
Bah, moi, je pense que c'est plus, moi, je veux pas mouiller, quoi. Voilà. Parce que tu dis, la France n'est pas raciste, mais elle a pas l'habitude. C'est comme si tu disais, voilà, à l'époque où on envoyait les Noirs en campagne, oui, ils sont pas racistes, mais c'est parce qu'ils ont jamais vu des Noirs.
Voilà.
Toi-même, tu sais que Marie... voilà, ce que tu racontes, c'est n'importe
Marie
quoi.
Enfin, voilà. Et puis, ça nous permet de revenir un peu sur tout ce qu'on voit au niveau business qui fleurit dans l'agglomération lyonnaise. On leur souhaite bon courage. Et nous, on est derrière, on les soutient. Il n'y a pas de souci. On va faire une virgule musicale et puis on revient dans quelques instants sur le plateau de Maki Pluriel. Cette fois, on va aller en RDC pour faire plaisir à Joe, et ce sera le grand Fally Ipupa.
Dicap la merveille.
Dicap la merveille qui réveille les gens, même quand ils sont malades.
Jolibilité.
Original. Hustle. Hustle. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Fally Ipupa, Dicap la merveille. Original. Original. Listen, écoutez bien. Get up and dance, dance.
Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, let's dance. Sud-America, como estás? Asia, I know.
Et pas au Gahaya.
Maki pluriel. Bala.
91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95.
Retour sur le plateau de Maki Pluriel comme tous les mardis entre 20h et 22h sur Radio Pluriel 91.5 FM avec une équipe de choc, le chef du village aux manettes, et Joe et Stéphanie de l'autre côté de la vitre et qui nous parle. Stéphanie, chronique beauté noire, et Joe, community manager du réseau des femmes afro-descendantes. Et nous allons faire un petit tour du côté de l'agenda d'Echo d'Afrique.net. Il y a beaucoup de choses qui se passent en cette fin de mois de mai. Vous pourrez demain, à partir de 17h, aller du côté de la MJC Espace Elsa Triolet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la MJC Monchat. Allez visiter le documentaire réalisé par Pascal François Djoumessi au Cameroun, verso de mes ancêtres. C'est absolument gratuit. Nous vous invitons à y aller. Et puis, vendredi 31 mai, si la littérature vous intéresse, vous pourrez aller voir la lyonnaise Gertrude Dalo-Biefo, qui était mariée à un centrafricain, qui présentera les deux ouvrages qu'elle a écrits. Le premier, c'est L'Africaine blanche au cœur de la Centrafrique, et le deuxième, Retour à mes racines noires, l'esclavage de jadis et de maintenant. C'est vendredi 31 mai du côté du Carrefour des cultures africaines. Et puis le lendemain, samedi 1er juin, si vous voulez aller profiter des premiers beaux jours sur l'agglomération lyonnaise, ce sont les Ghanéens et particulièrement l'amitié franco-ghanéenne qui vous invite à un BBQ, puisque ce sont des anglophones. BBQ Party, ça sera du côté du parc de Miribel Journal. Chacun vient avec quelque chose. Ça, quand on dit ça, les gens ne comprennent pas trop, hein, parce qu'ils viennent pour profiter de ce que les gens ont amené. Mettons moins une petite bouteille de coke, enfin de boisson, un petit soda. On ne demande pas d'envoyer la viande parce qu'on ne sait pas ce que tu es capable d'amener. Et puis, toujours le samedi 1er juin, il y a Juliette Smeralda qui fera une conférence sur les pratiques capillaires et enjeux panafricains. C'est ce dont on vient de parler. C'est qu'à un moment donné, c'est la Ligue panafricaine UMJOA et l'association Makata. UMOJA, moi je dis UMJOA, je ne sais pas pourquoi. C'est UMOJA, il y a un O au milieu. UMOJA avec l'association Makeda Saba qui organise ça. C'est du côté de la maison des étudiants. Ça rejoint exactement que le débat que nous avions il y a quelques minutes. Voilà. Pour poursuivre notre émission, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la Guinéenne qui s'est fait voler son diamant.
On vient de le voir là.
Je crois que j'ai dû en entendre parler ce week-end, où je n'ai pas forcément fait attention, mais là, en relisant l'article, oui, ça m'est venu. En fait, elle a voulu faire expertiser son caillou, comme ils disent. Voilà. Et l'expert a pris le caillou pour l'expertiser, a remplacé. En fait,
le vrai diamant par un vrai caillou
pour le coup.
Voilà.
Et du coup, elle se
45 millions rien. D'euros, mais c'est moi, ça me paraît démentiel.
En fait, pour moi, quand je vois qu'il y a des gens qui peuvent dépenser 45 millions dans des cailloux, j'ai du mal aussi à les plaindre. Hein, j'avoue que
Non, mais elle, apparemment, c'est au pays qu'on lui a donné ça, non?
Mais elle a payé 45 millions.
Non. Elle, c'est un don qu'on lui a fait et elle a fait expertiser ce don. Donc, d'accord. Je crois que c'est un diamant de Guinée qu'elle a récupéré, d'accord. qu'elle avait dans sa possession, mais elle ne connaissait pas la valeur. Donc
elle voulait savoir.
Voilà, on lui a dit qu'il vaut 45 millions et je crois qu'elle voulait confirmer. Et comme les gens savaient qu'il avait cette valeur, je pense qu'ils sont venus lui faire un coup dans un tourloupe et ils sont repartis. Mais 45 millions d'euros.
45 millions, ça fait mal.
Ouais, ça fait mal, hein.
Ouais. Mais comment.
Moi, j'ai un diamant, même si on me dit 2 millions, je pense à tout de suite.
45 millions, c'est. Moi, je trouve ça démentiel quand même. Je trouve ça démentiel.
On sait même pas. 45 millions d'euros, c'est un avion, hein, c'est un jet privé.
Bah ouais, moi, je trouve qu'à un moment donné, ça va un peu trop loin de ce capitaliste, oui, quand même. 45 millions à un diamant.
Ouais, 45 millions d'euros dans un hôtel parisien.
C'est énorme.
Elle a 40. Elle a quel âge ? Elle a 52 ans. Je crois qu'elle elle vit en région parisienne. Elle s'appelle Marie-Madeleine Djoubaté. Elle était candidate aux élections présidentielles en Guinée-Conakry. Donc voilà, elle s'est fait. Elle a 52 ans, c'est bien ça. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site EchoDAfrique.net ou sur le site de France Info pour en avoir savoir davantage. Et la réflexion que je me faisais, je me disais 45 millions d'euros, elle construit combien d'écoles et combien d'hôpitaux?
Oui, avec ça Guinée, là.
Hein. Ouais. Ça, il aurait fallu le vendre tout de suite. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment moi, elle se balade avec pendant X temps?
Moi, je garde pas ça chez moi. Hein.
Bah non.
5 millions, ouais.
500 000 euros, encore, on comprend, mais 45 millions d'euros, c'est. Bon, on n'est pas dans le même moment.
J'espère qu'ils vont le retrouver.
Ouais, j'espère qu'ils vont le retrouver.
Moi, je pense qu'il est déjà vendu. Moi, je pense qu'il est déjà parti.
Il est allé assez loin.
Ouais. Bon. 45 millions.
45 millions. Bon, si quelqu'un. Il faut te donner un peu. 10% des 45 millions, c'est 4,5 millions.
Ça va, on s'en contentera.
Même 1%.
Même 1%, ouais.
50 000. Bon, 1%, ça nous permettrait d'aller un peu plus loin en vacances et puis de choisir des bons lieux pour pouvoir en profiter.
Mais ce qui est bizarre, hein, c'est que bon, 45 millions ici, mais quand c'est en Afrique, ça ne vaut pas 45 millions.
Ah oui, non, mais c'est une qui est par 10.
Ça veut dire que les Africains, eux, ne peuvent pas s'enrichir sur ce genre de choses.
Déjà, 1,5 million, ça fait 1 milliard d'euros de francs CFA. Et 1 milliard de francs CFA, on est bien. Hein.
Donc, bon. Déjà, on peut souligner que voilà.
Alors moi, c'est la somme qui m'a paru faramineuse.
Et à un moment, oui, moi aussi, j'hallucine un peu. Ouais.
Après, ça peut être un gros caillou. Hein.
43 carats.
Moi, j'aimerais bien savoir de quelle taille est-ce qu'il était. Ouais, ouais. Parce que j'ai un peu du mal à.
Moi, j'ai jamais compris l'histoire de carats.
Moi non plus.
43 carats, ça a l'air pas mal. Hein.
Je comprends pas les carats, moi. Comme
je suis pas concernée, c'est vrai que j'ai pas.
C'est vrai que le problème, c'est vrai
qu'on n'a pas. Ni en collier, ni en quoi que ce soit.
Quand on n'a pas l'habitude de porter des boucles d'oreilles en diamant, c'est ce qui se passe. N'est-ce pas, Stéphanie?
En tout cas. Moi, on m'a jamais offert des bracelets. Hein.
Non plus, on t'a pas offert.
Ah non, bon. Pas de diamants.
Bon, amis auditeurs, si tu nous écoutes.
Voilà, si t'as quelques diamants.
T'as quelques diamants en trop, n'hésite pas à nous contacter. On saura
quoi en faire.
Ah, ça, oui.
Bon usage.
Ah, ça, c'est clair.
Voilà. Donc, on rejoint effectivement ce qu'on a dit sur la conférence capillaire. J'avais complètement oublié que c'était au programme et on parlait justement de ce panafricanisme. Mais là, on est vraiment à la frontière. Parce que des femmes afro-péennes qui sont là, leurs cheveux sont les mêmes que celles qui sont sur le continent. Donc, du coup, panafricain, afro-péen, là, il y a vraiment de quoi faire. De la
convergence.
Il y a convergence, je cherchais le mot, merci de me l'avoir.
Mais je trouve que le débat sur le cheveu revient en vigueur, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, je me rappelle, c'est plus 2010, 2011, même avant, ça reparlait beaucoup de cheveux, et je trouve que là, ça revient beaucoup, la thématique du cheveu.
Ça s'était calmé, c'est vrai,
Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que là, en ce moment, beaucoup de femmes sont nappy, donc...
Mais la mode, c'est un éternel retour. Michael Jackson, il était nappy, hein.
Ah ouais, à un moment donné, ouais.
Non, parce que je pense qu'en fait, à l'époque, disons vers 2010, où il y a eu beaucoup de... Enfin, voilà, il y a eu une grande vague de retour naturel, d'abord aux États-Unis, puis en France. C'était juste un retour au naturel, en fait. Après, peu importe les produits qu'on utilisait, alors que là, maintenant, on est vraiment axé sur utiliser des produits, non seulement des produits naturels, mais en plus de ça, des produits donc qui viennent d'Afrique et des produits donc produits par on veut aussi participer à l'économie sur place, etc. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu et qui fait que le débat justement du cheveu naturel il est relancé, parce que il s'agit pas que de cheveux là pour le coup.
D'identité aussi.
Il y a d'identité. Alors que Michael Jackson à l'époque c'était la période post
Black Power.
Voilà, Black Power post ségrégation, c'est qu'on affirmait
c'était
ses
plus
cheveux.
Parce qu'Angela
Davis, Davis aussi avait l'afro, hein.
Oui, et c'était tout le monde avait l'afro. En fait, il y avait pas vraiment le cheveu crépus. C'était tout le monde en afro. C'était vraiment une revendication. C'était un uniforme.
Voilà. Et là, on affirmait notre identité noire, Black Power, comme on dit, à travers l'afro. Voilà. C'était pas le côté un peu plus beauté.
C'est beauté, mais c'est aussi un mode de la consommation en fait qui est aussi au cœur du sujet en ce moment. Ouais.
Après, moi, quand je connais la mode, je me dis, il y a un éternel... c'est un cycle. Dans 20 ans, on va nous trouver autre chose. Et bon, après, sur les cheveux, je ne sais pas si ça aura lieu, mais quand on regarde l'aspect vestimentaire, on voit bien que c'est une évolution. Le cintré était la mode dans les années 50. Après, ça a été les gros bas qui étaient dans les années 70. Après, on est venu au cintré. Et puis bon, je suis sûr que d'ici 10 ans, ce qui sera la mode, ce sera les gros trucs amples avec les pâles et les fonds.
Après, les cheveux crépus, le retour aux cheveux naturels, je pense que ce n'est vraiment pas un effet de mode. C'est vraiment un souci quand même d'être soi-même et de se dire aussi je suis bien dans ma peau, je suis belle aussi.
Oui,
hein.
Mais après, une fois qu'on aura dépassé ça, parce que je pense qu'on est dans une phase aussi d'affirmation. On affirme le fait que vous n'allez pas m'en pip avec le fait que je sois comme vous. Donc je montre comme je suis, mais une fois qu'on aura enfin peut-être qu'on le dépassera jamais, mais une fois qu'on aura dépassé ça, peut-être qu'on va passer à autre chose, on sait pas.
Parce que moi je vois, je forme mes cheveux crépus parce que déjà c'est moi quoi. Parce que j'ai pas envie de me brûler le cuir chevelu, j'ai les assez faits et que j'ai envie de garder mes cheveux sur la tête, hein, parce que le défrisage, au bout d'un moment, il reste quoi sur la tête
Ça fatigue, oui.
Ah ouais.
Le cuir chevelu.
Il y a des femmes qui confient quand même qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans de défrisage, elles sont obligées de porter des perruques parce qu'il n'y a plus rien.
Elles ont tout brûlé.
Tout à fait, elles ont tout brûlé.
Voilà.
Oui, mais là, après, bon, ça, c'est vrai que les produits sont néfastes. Ça, c'est reconnu. Mais je pense que la question que je me pose, c'est que dans l'évolution, dans 10, 15 ans, admettons les enfants qui vont naître avec le mode nappy. Tu n'auras plus ce complexe.
Oui.
D'accord. Donc, ils vivront naturellement. Avoir les cheveux, je ne vais pas dire nappy, mais avoir les cheveux naturels, c'est comme ça.
peut-être qu'on aura autre chose, on va se raser, je dis n'importe quoi, hein. Peut-être, peut-être qu'on fera des nattes, je sais pas, il y aura peut-être autre chose.
Mais, oui, je mais pense justement, on aura atteint le but étant que...
Le but, c'est
démocratiser.
Voilà, que de porter ses cheveux naturels, ce soit pas un sujet, justement.
Voilà, voilà. Je pense que ça ne deviendra pas un sujet, donc du coup, on passera à une autre apparence, il y aura peut-être des débats sur les coiffeurs qui feront, parce qu'actuellement, les coiffeurs sont pas trop... Soit en nattes, c'est ça, hein. Moi, j'ai remarqué les filles nappies, c'est quoi la tendance? Soit on laisse nos cheveux...
Ouais.
Bah, ça dépend, t'as beaucoup de... tu peux avoir un afro, tu peux faire des vanilles, tu peux faire des chignons, tout ce que tu veux.
Ouais. Non, mais les coiffeurs...
Alors, les coiffeurs, moi, de ce que j'ai pu voir, bon, il y a quelques années, c'est vrai que le crépu...
Ils savent pas faire, en fait.
Après, je n'ai pas tout testé, mais je me rappelle quand même, à l'époque, je me défrisais les cheveux, mais je les laissais naturels. Rien que ça, c'était déjà très difficile pour eux.
Et on parle de coiffeurs dans la communauté, hein.
Voilà, oui.
Oui, oui, ouais, voilà. Là, on va pas forcément
parler. C'est compliqué. C'est ce que je voulais souligner. C'est-à-dire que même ils sont surpris par l'évolution.
Oui, c'est vrai que les coiffeurs n'ont pas suivi cette évolution. Bon, il y a encore beaucoup de femmes qui mettent des perruques, des tissages, etc. Quand même, il y en a quand même pas mal, hein.
Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément. Les sujets les plus chauds, on va dire, mais il y en a énormément. Hein,
après, il faut laisser le temps au temps. Quoi. Les choses ne vont pas se faire brutalement, ça va évoluer. Et puis, au fur et à mesure... moi, je suis plus inquiet par rapport à la couleur de la peau, au colorisme.
Ben, ça,
je
c'est...
pense que ça...
Ouais. Mais les cheveux, ça va avec. Hein,
je pense que les cheveux naturels, d'aspect, quand ça va évoluer, les coiffeurs vont s'adapter. Donc, même avec des cheveux naturels, on arrivera à avoir une coupe de cheveux sur laquelle on prêtera plus attention. Mais sur le colorisme, je pense que, comme disait Einstein, il est plus facile de casser la liaison de deux atomes que les préjugés que les gens ont.
Bah après, le colorisme et le cheveu naturel, je dirais que ça va quand même ensemble, selon la texture du cheveu, quoi.
Oui, mais après, quand je dis c'est l'aspect, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des cheveux naturels, si c'est travaillé, c'est plaqué, c'est machin, chignon, comme tu dis, etc., qu'on comprend des grands coiffeurs qui disent cette tendance d'avoir les cheveux naturels. Je dis n'importe quoi, hein, cette tendance. Donc, ils vont nous créer au prochain salon de la mode afro.
Oui, ils vont faire des shows coiffures avec des cheveux crépus.
Donc, ça va être accepté par tout le monde. C'est-à-dire, même dans les télévisions, tu viendras avec ta coupe.
Il faudra même venir avec.
En revanche, sur le colorisme,
ben c'est difficile, hein.
Je pense que pour changer les mentalités, je pense que c'est plus compliqué. Je pense que les cheveux, on va y arriver, mais je sais pas, c'est mon point de vue, hein.
Ben en fait c'est très compliqué le colorisme, parce que en fait il y a la peau, il y a les cheveux, il y a les traits. Et souvent ce qu'on va faire, c'est que si t'as les cheveux, ça veut dire que le reste ça doit être bon, quoi. C'est-à-dire tu dois être clair et des traits fins, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Aussi, alors voilà, il faut pas que t'aies le combo entre guillemets, le combo perdant. Il faut vraiment que il faut enlever les autres. Et souvent c'est ça, c'est-à-dire
il faut au maximum en avoir un.
Critère qui passe. Voilà. Les cheveux, voilà, genre comme on dit 4C.
Voilà.
C'est mieux si t'as les traits fins.
D'accord.
Tu vois. Voilà,
parce que personne, enfin j'ai l'impression que même si c'est vrai qu'elles ont quand même des difficultés à se coiffer, mais les gens qui pratiquent le colorisme en veulent moins à une personne qui est claire de peau mais qui a les cheveux 4C.
Ouais.
Ils lui en voudront moins si elle est claire que si elle était foncée, par exemple.
4C, là, ça veut dire quoi?
4C, c'est très enroulé, très serré.
Très serré, c'est-à-dire que le peigne a du mal.
Il faut trouver le bon peigne.
La technique, hein. Voilà, c'est une question de technique.
Voilà.
D'accord, ça c'est 4.
Si t'es clair et que t'as les cheveux comme les miens, on va dire bon, ça va, au moins elle est claire.
Voilà.
Si elle a les cheveux comme les miens.
Ok, au moins il y a un critère. Au moins les deux autres passent.
Voilà. Oui, voilà, donc ça passe. En général, si on puisque on voit quand même que quelque part il y a quelque chose qui est venu adoucir tout ça. En fait,
c'est du domaine de l'acceptable, hein, pour dire.
C'est comme les filles sont très noires de peau, on dit t'es belle pour une noire, c'est sous-entendu tu as les traits fins.
Oui, c'est ça. C'est ce que ça sous-entend, hein, de toute manière.
Tu es noir, mais tu as l'un des critères qui passe.
Voilà, l'un des critères qui fait que tu es sauvé.
Tu es sauvé parce que tu as les traits fins.
Non, mais c'est vrai, c'est ce que ça veut dire.
Donc ça veut dire que sur le débat que donc, on pourrait être noir à condition d'avoir les traits fins, les cheveux lisses, c'est ça?
Voilà. Je veux dire,
et on pourrait être clair avec les cheveux.
Ou l'un ou l'autre, hein, pas forcément les deux en même temps.
Voilà, faut pas avoir le combo en même temps. Voilà,
on pourrait être clair avec les cheveux 4C.
Mais par contre, prends l'exemple de Naomi Campbell. Elle est super foncée, mais elle a les traits fins et les cheveux lisses en apparence. Donc ouais, elle, ça passe. Maintenant, une Alec Weck, qui est très foncée, mais parce qu'elle a des traits, on va dire, un nez plus large, et parce qu'elle était rasée, qui faisait apparaître ses cheveux crépus, là, ça passe pas du tout.
Ok.
Voilà.
Donc moi, je me trompe peut-être, hein, finalement. Vous êtes en train de... C'est bien, dans cette émission, on arrive à s'auto-convaincre.
Tu te trompes comment ?
Non, parce que moi, j'ai dit, je pense que les cheveux, ça va passer. Parce qu'on va créer
au final, certainement.
Dans l'inconscient collectif, ça passera parce que nos enfants vont naître comme ça. Donc, ça passera. On aura des trucs à la télé. Et puis, la communauté, quand même.
Oui, parce que je pense que nous qui évoluons là-dedans, on va aussi faire en sorte de leur faire aimer leurs cheveux.
Voilà, aimer leurs cheveux.
Et de ne pas te dire, voilà, pour être joli, il faut défriser.
Voilà. Moi, je pense que c'est perso, je pense que là-dessus, ça va passer. En revanche, sur la couleur de peau. On va rester sur les a priori, sur les préjugés qui vont être difficiles à faire passer dans l'inconscient collectif parce que la majorité des dominants est claire.
Non, parce que le crépus qui est mis en avant, c'est un crépus très aéré.
Oui.
Mais les cheveux, si tu veux, très serrés, si bruts, ça ne passe pas. C'est-à-dire il faut les transformer, il faut les... Voilà.
Moi, je pense que c'est aujourd'hui. Je pense qu'avec le mouvement qui est en place, je pense que ça va... Je prends les enfants. Hein. Il suffit que les enfants acceptent leurs cheveux. À l'école, par exemple, ils disent pas oui, j'ai besoin de défriser, j'ai besoin de ci. Qu'ils acceptent d'aller à l'école et affronter le regard des autres avec leurs cheveux tels qu'ils sont. Je pense qu'après, les enfants sont des adultes en devenir. Ça va passer. En revanche, sur la couleur, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est. Parce que quand, une fois, vous avez parlé du colorisme, moi, il y a des choses que je découvrais. Et quand je vous ai écouté à la fin, j'ai dit ah ouais, ça va être chaud. Parce que la manière dont c'est compliqué aujourd'hui, je vois pas comment on change dans la mentalité des gens.
Bah, c'est en agissant sur le racisme et sur... Parce que c'est quand même le colorisme, c'est le racisme, en fait.
Alors,
c'est...
oui, il faut agir sur le racisme parce que moi, on a reçu des personnes, je crois, c'est ethniques.
Ewa ethniques.
Qui nous expliquaient les problèmes de santé qu'il y a derrière tout
par
ça.
Par rapport à la dépigmentation.
Voilà, etc. Tout le monde a conscience de ça. Il y a des gens qui sont morts de ça.
Ils en ont conscience, mais en fait, des fois, même la conscience de la maladie ne suffit pas.
Ne suffit pas, parce qu'ils sont dans un environnement où on est jugé, où on dit, ah, celle-là, regarde comment elle est claire. Et puis, il y a des réflexions.
Mais c'est ça.
Regarde comment elle est claire. Toi, t'es trop noir dans la famille, on dit.
À un moment donné, qui veut de la femme noire, comme on pose la question. C'est-à-dire que tant que les hommes, ou les gens, d'une manière générale, vont favoriser les gens clairs, forcément, la personne, elle prendra le risque.
C'est pour ça que je dis que, selon moi, mon avis d'homme, les cheveux vont être acceptables parce qu'on va être habitué au regard, on va être habitué aux coupes qui vont être développées. Mais là, on sera dans du différentiel de couleur. Puisque la couleur, au regard des gens, je suis que les clairs sont comme il faut.
Voilà.
Les noirs, plus on est sombre, enfin, plus on est, moins on est comme il faut. Et je crois que ça, c'est très, très difficile. Je ne sais pas, hein. Sauf si
t'as les traits fins.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vois, vous avez fait l'école française, donc on peut pas dire que vous venez d'arriver en France, mais on voit dans l'inconscient collectif du blanc, il a l'image du noir au-delà des cheveux, au-delà de tout. Hein.
Moi, bizarrement, je mettrais un tout petit bémol, je vais encore jeter un pavé dans la mare. Les personnes, moi, qui m'ont fait le plus de réflexions sur mes cheveux, ce sont des personnes afrodescendantes.
Des noirs.
C'est pas. Parce que j'ai l'impression que pour les personnes blanches, bah, une personne noire, elle a les cheveux comme ça, bon, bah,
oui, et puis voilà,
c'est la vie. Hein.
Ouais, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est la nature. Alors que vraiment, la pression, elle est venue des personnes afrodescendantes. Ouais. La pression, il faut que tu te défrises, c'est moche, etc.
Donc, eux, ils sont plus dans. Je dirais pas les
parce
clichés,
que même le colorisme,
mais
c'est plus un problème qui nous concerne directement en interne. Il faut faire du nettoyage en interne.
Est-ce
faire la détox.
Le colorisme ne vient pas du fait que pour être beau, il faut être vers le dominant, c'est-à-dire le blanc.
Oui, mais on va.
Oui, mais c'est,
si
c'est,
on était dominé c'est... par des noirs, la majorité de la population était noire. Le colorisme serait en sens inverse.
Oui, mais les clichés perdurent dans les familles.
Moi, je te prends le cas d'Alec Weck.
Oui.
C'est les personnes blanches qui l'adorent, Alec Weck. Les personnes noires disent qu'elle est moche et ils ne voudront jamais de
Alec
Weck.
Parce que je pense que dans l'inconscient de la majorité des afros, pour réussir, il faut se rapprocher du modèle décidé par le blanc.
Oui, mais c'est les afros.
Oui, mais après, du coup, ça reste dans leur tête. Donc, c'est chez nous qu'il faut faire le travail.
C'est chez nous qu'il faut faire le travail. Et je dis que le travail est difficile à faire parce que c'est dans un inconscient. Il faut attaquer pour que tu sois fier de ta couleur, etc. Et ça, c'est très, très compliqué.
C'est très difficile.
C'est très compliqué. Et puis même, comme vous dites, quand on voit dans certaines populations, dans certaines familles, hein, dans tous les peuples afro, c'est les noirs, on fait... Ah, toi, tu es noir dans la famille. Ah, heureusement que toi, tu es
c'est toi qui me dis ça.
Oui.
Que dans certaines familles, quand l'enfant... Tu vois, c'est aux Antilles qu'ils appellent celui qui sort clair au lieu de
Chabin.
Sortir... Non, on dit on l'a pas raté, là.
Peau sauvée.
Peau chappée. Donc déjà, là, franchement, bon. On va faire un peu de virgule musicale, parce que quand on entend ça, on sent que le combat va être difficile. Hein.
Oui,
il va falloir beaucoup de maquis pluriel. Hein.
Oui, mais ce qui est difficile, c'est que les personnes claires subissent aussi le racisme. C'est difficile de parler... De,
oui, voilà, juste de... dans un sens, puisque elles aussi, elles voilà, sont quand même lésées.
C'est difficile de... Voilà.
Oui, mais si on revient aux fondamentaux qu'on a évoqués au départ, c'est qu'il faut que les gens soient bien dans leur peau. Qu'ils n'aient pas, ils sont pas obligés de se transformer pour satisfaire à ce que les autres attendent.
Oui.
Donc on est clair, on est noir, on est blanc, et puis on vit.
Mais alors ça nécessite aussi d'en parler avec les personnes claires. C'est un débat qu'il faut,
ouais, qu'il faut avoir avec tout le monde, hein, en même temps.
Et oui. Moi, quand je dis tout le monde, je dis qu'il faut casser cela, c'est de dire qu'effectivement tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un fait que, quoi, d'après ce que vous me dites, le colorisme, c'est plus on se rapproche du blanc, plus les critères de réussite ou plus les critères d'acceptation sont forts, c'est ça.
Voilà, oui.
Voilà, c'est comme ça que j'ai vu, mais. En tout cas, moi, je suis assez sceptique. Bon, on va faire une virgule musicale. On va aller voir notre ami Serge Benoît pour un peu détendre l'atmosphère. Mais c'est un débat qui est intéressant parce que du coup, même au niveau de l'identité entre nous, c'est chaud.
Bah oui, c'est chaud.
On est chaud, c'est chaud pour définir l'identité parce que c'est une identité, bon, qui est un peu en bizarre.
Plurielle.
Elle est plurielle, voilà, c'est le mot adapté. Allez, on fait une virgule musicale et puis on revient sur le plateau. Si vous avez des interventions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Maki Pluriel sur Facebook ou 04 78 21 05 95.
Ça c'est la danse, la danse de papa. Petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi Dieu merci. C'est qui es-tu à lancer les mains? J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe.
Avec classe.
Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe.
Vous êtes sur le vol
91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95.
Retour sur le plateau de Maki Pluriel après cette belle virgule musicale de Babache de Serge Benoît. Babache, ça veut dire c'est le gourou Bacha, ça veut dire que c'est un gars qui a assez d'argent, qui est bien posé. C'est pour ça qu'on l'appelle le Babache. Et il y a la danse du Babache, ça veut dire quand on danse, on ne transpire pas. Même sur le Ndombolo, on est posé en costume cravate avec le bon cigare qu'il faut. Et ça se passe bien. C'est ce qu'on appelle les babachés. On dit à Lyon, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des babachés, mmh. mais c'est des fauchés. Hein? Donc, soyez vigilants. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Nous, on les démasque de temps en temps. 04 78 21 05 95. Joe est là. Stéphanie est là, le chef du village. Est là, en forme plus que jamais. On va s'achever. On va entamer notre descente vers la fin de notre émission, vers le terminal 91.5. On était en train de parler justement des problèmes afro-péens et... Panafricain, on est arrivé sur le coloris, sur les cheveux. Mmh. Je trouve que le débat est intéressant, même sans invité. Mmh. Et par curiosité, je suis allé consulter un peu la démographie de deux pays qui sont emblématiques à ce niveau, à savoir l'Angleterre et les États-Unis. Si je vous dis en pourcentage, le nombre de Noirs aux États-Unis, vous dites quoi?
Moi, je dis 12%.
12%.
Non, plus. Est-ce que tu prends en compte dans
tout
les
monde.
Noirs tout le monde.
Noir sans métis. Hein.
12%.
Les est-ce que comptés. Les... Non, pas compté.
Ouais.
Non, moi j'irais à plus, hein. Moi j'irais au moins à 30%.
30%
minimum. Enfin, en fait, je pense plus, mais bon.
C'est Joe qui a raison. Hein.
Ah ouais?
12%.
Ouais, j'avais regardé. Ouais, j'avais
regardé. Ouais, mais c'est pas la
riche. Regardé, oui, parce que
il y a longtemps, j'avais regardé les pourcentages. Voilà. Ouais.
Donc, les Noirs, c'est un sondage démographique de 2010. Hein. Mm. Les Blancs non hispaniques, donc ils arrivent à faire quand même la différence. Hein. Blancs non hispaniques, 63,7%. Hispaniques et latinos, 16,7%. Noirs non hispaniques, 12,3%. Asiatiques non hispaniques, 4,7%. Les Métis non hispaniques, 1,9%. Et les Amérindiens, 0,7%. Dire que c'était eux les propriétaires du pays.
Oui, en plus.
0,7%. C'est toujours intéressant à savoir. Ouais. Et j'ai fait le même parallèle avec l'Angleterre, qui est l'île, qui a un parallèle avec la France, parce que c'est un ancien pays de colonisation, avec le Commonwealth. Alors, combien représentent les Noirs?
Moi, franchement, je ne pourrais même pas dire. Peut-être parce que moi, quand je vais en Angleterre, je vais que dans les endroits où il n'y a que des Noirs. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. 100%.
100%.
Non, je rigole. Non, 9. Je rigole. Je dirais, si aux États-Unis, il n'y a que 12%, franchement, en Angleterre,
9, 8.
Dans ce cas, bah, pareil, hein, je dirais 10% aussi. Alors.
Eh bien, on n'est même pas à 2%. 1,98%.
Waouh.
Autant que les Métis. Les Pakistanais, 1,86 et les Blancs, 87,17. Vous voyez comme quoi, c'est du ressenti, c'est exactement ce que je disais. Il faut parler des vrais chiffres.
Ouais, hein.
Parce qu'effectivement, si je vais dans certains quartiers...
Si tu vas à Château Rouge, t'as l'impression que c'est 100%.
Ou à la Guillotière, on a l'impression que c'est 100%. Alors que dans les campagnes et tout, en Angleterre, ça doit être assez particulier. Ce chiffre me paraît quand même un peu... Parce que je crois que j'en avais vu un
peu
autre,
bas, non?
Moi, j'avais vu autour de 5%. Au Royaume-Uni, donc je sais pas ce qu'ils appellent le Royaume-Uni. C'est quoi le Royaume-Uni? C'est tout.
Si, c'est l'Irlande.
Oui, c'est tout.
Donc il faudrait peut-être prendre Angleterre simplement.
Angleterre, peut-être.
Voilà,
ouais,
Angleterre simplement pour avoir des résultats. Parce que c'est vrai que si on prend l'Écosse et l'Irlande, il y a peut-être moins de.
Oui, voilà, ramener à tout ça, il y en a, je pense,
l'Irlande,
moins.
Que...
Mais si tu prends juste l'Angleterre, franchement.
Donc on a 12% au niveau des.
Rien que la concentration à Londres.
Il y en a une, Buckingham Palace.
Il y en a une qui est considérée comme métisse.
Ouais, donc elle compte pas.
Elle est classée métisse, hein.
Ah ouais.
Oui. Okay,
donc
elle
est métisse,
oui. Oui, oui.
Dans la démographie anglaise.
Mais comment est-ce qu'ils font pour compter les métisses, en fait?
C'est autodéclaratif. C'est-à-dire que quand tu recenses, t'as des cases. Et c'est toi qui dis, je veux
être métisse. C'est toi qui coche la case.
Voilà, c'est toi qui coche la case, tu t'estimes comme métisse. Alors ça, c'est la fameuse théorie de la goutte dans le sang.
D'accord.
À partir du moment où on a même un millième de sang noir, aux États-Unis, on est considéré comme noir.
Moi, j'ai coché blanc.
Par exemple, Barack Obama, qui est métisse, qui est 50-50, il était considéré comme noir.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, il est considéré comme noir. Donc, je vais essayer de trouver les résultats, mais vous voyez que...
En France, on ne peut pas avoir ces résultats-là.
Oui, puisque c'est interdit.
C'est exactement pour ça que je voulais
donc,
qu'on en parle.
Tout le monde parle vraiment dans le vide, même par rapport aux musulmans. Il y en a qui vont te dire qu'il y en a 50%, l'autre, il va dire qu'il y en a 5%. Comment tu peux démentir? Tu n'as pas les chiffres.
Alors, j'ai des chiffres de 2011, qui est Angleterre. Hein. Blanc, 91%, asiatique, 5,1%, noir, 2,3%, métis, 1,4%. Donc c'est vrai qu'on n'est même pas à 3% en Angleterre. Moi, je pensais qu'on était plus à 5% qu'on ne l'est.
Mais et l'Angleterre, elle n'a pas plus colonisé l'Inde, tout ça.
Ouais, c'est peut-être, Pakistan,
tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve.
Ah, c'est des pays à 1 milliard d'habitants. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai que les Noirs aux États, moi, la Jamaïque, c'est vrai, la Jamaïque, Nigeria, Ghana, Ouganda, Tanzanie. Mais c'est vrai que quand on va dans certains quartiers en Angleterre, on est surpris.
T'as pratiquement que des Nigérians, des Ghanéens.
Moi, j'étais allé à Birmingham, dans le quartier après Aston Villa, et j'étais avec un copain blanc. On avait fait toute la matinée. Lui, il avait remarqué. Il m'a dit, mais chef du village, j'ai vu que deux blancs depuis qu'on est là. Moi, ça m'avait
T'es sûr qu'on est en Angleterre. Ouais, toi, ça t'a pas choqué.
Ça m'a pas choqué. Donc voilà, on peut pas avoir ces chiffres en France.
Ouais, malheureusement.
C'est intéressant. Intéressant de les avoir. Par exemple, si on y voit au niveau de religion, aux États-Unis, les chrétiens représentent 70% de la population, les juifs 1,9%, les musulmans 0,9%. Les sans religion sont 23%. Donc effectivement, entre le ressenti, ce qu'on souhaite que ça soit, et puis la réalité du terrain, nuance en sens. Pas parce que je suis dans un endroit où il y a beaucoup de noirs et de maghrébins, il y en a beaucoup en France. C'est ce dont je voulais qu'on discute, parce qu'au niveau identité et tout, ça peut répondre à beaucoup de questions.
Bah oui. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur l'immigration, hein, parce qu'à mon avis, il ne doit pas en avoir beaucoup. Tu vas dans les villages français, il n'y a pas de personnes issues de l'immigration. Hein,
Qui va dans les villages?
Donc, c'est surtout dans les grosses métropoles.
Exactement, nous qui sommes en métropole, pour nous, c'est vrai, quand on prend le métro, on se dit « Ah, mais il y en a beaucoup, on est des frères, ouais, tu es 5, etc. » Mais il suffit qu'on sorte un peu, qu'on aille en Auvergne, ou dans certains villages bien reculés en Ardèche, on n'en voit pas beaucoup.
Ah, pas beaucoup, donc bon...
Ok, mais c'était juste pour avoir cette idée des chiffres, parce que Joe avait bien souligné que dans ce débat, il est important que...
Oui, d'avoir les vrais chiffres.
Les vrais chiffres, sinon on part dans n'importe quel sens. On a été très sérieux aujourd'hui. Hein.
Ah ouais.
Il n'y a pas eu de questions.
Oui, il n'y a pas eu de thème un peu léger, tout ça.
Il
ouais.
faut qu'on arrive à trouver quand même des thèmes un peu plus légers pour pouvoir... Il faut qu'on alterne, hein. Sinon on va être pris par des trucs de trop sérieux comme...
Non, ça va, c'était sérieux, mais ce n'était pas non plus lourd. Hein.
Ouais, non, ce n'est pas lourd. On va auto-satisfaction des alliés. On va s'assurer. Pas mal.
On a été bien là, puis je pense que c'est aussi pour ça que les gens regardent Maquipure, enfin voilà. Écoutent.
Ceux qui nous regardent, ils pourront avoir la remarque que Joe a beaucoup bu aujourd'hui. Hein, je sais pas.
Elle a bu beaucoup d'eau.
Beaucoup boire de l'eau.
Elle s'hydrate, détox.
Et en plus, j'adore ce genre de verre en fait. C'est pour ça
que ça te donne envie.
C'est pas le contenant qui est important.
C'est le contenu.
C'est le contenu. Non, c'est le contenu.
Là, c'est trop mignon.
C'est trop mignon. Donc, si vous voulez faire un cadeau à Joe, n'hésitez pas. Elle préfère autre chose, mais les verres, c'est pas mal.
Les verres, c'est pas mal.
Elle aime bien les bijoux, je pense.
Des bijoux, hein.
Toutes les femmes aiment les bijoux, hein.
Ah, même ta voisine.
Voilà, Diamond is
a woman's best friend.
Diamond is a girl's best friend.
En tout cas, ce qu'on peut dire de ta voisine, on ne pourra pas tout dire à l'antenne, mais ta voisine, elle a une veille sur les réseaux sociaux qui est extraordinaire.
Ah oui.
Le screenshot plus rapide que son nom.
Ouais.
Ça, on peut le dire le matin à
7h. Ah,
je n'y crois pas.
Les trucs temporaires.
Voilà. Mais avec elle,
chez moi, ça devient éternel.
Ça devient éternel. Et à 7h30 du matin, nous, on a l'info, on se réveille à peine, on dit oulala, il y a des choses qui sont passées cette nuit. Voilà, Maki Pluriel de ce soir, c'est terminé. On va dire au revoir à nos éditeurs. On a parcouru pas mal d'actualités. Hein. Je pense qu'on était quand même sur les élections, Aya Nakamura,
les diamants,
l'histoire des diamants. On a quand même parcouru pas mal d'événements. Et la semaine prochaine, on a des invités.
Oui, on aura Glynis de Curly Nights nous présenter ses bonnets en satin.
Mais c'est celle qui est passée au stand aussi. Je ne sais pas si tu l'as vue, elle est passée au stand samedi.
Et je l'avais vue à Beautiful Sister, je crois.
Ouais, voilà.
D'accord, celle qui a des t-shirts avec les trucs.
Oui, les pyjamas.
Les pyjamas, d'accord. Elle viendra avec un modèle, hein. Qui va essayer?
Ben moi je veux bien, si je peux avoir un modèle gratuit.
Les modèles de bonnets ou bien?
Ou de pyjamas.
Ah.
Bah oui, ces pyjamas, c'est pas des pyjamas sexy, hein.
Non, oui, c'est des pyjamas.
C'est pour aller dormir, c'est bon.
C'est pour aller dormir, hein.
On va te faire une place. Ok, donc on la reçoit la semaine prochaine. On va
lancer,
si vous êtes curieux, vous allez voir ce qu'elle fait.
Ouais.
C'est très, très novateur. Il y a vraiment, quand même, on peut le dire, sur la place lyonnaise, une vraie création. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Il faut vraiment qu'on les encourage, parce qu'on parlait de la place de afropéen, panafricain. En attendant, ces gens-là font des choses, hein. Donc on va pas rester sur des plans sur la comète. Nous, on vit au quotidien. Si vous réalisez, si vous avez des choses, vous avez des projets, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc la semaine prochaine, c'est Curly Nights.
Curly Nights.
Ah ouais, Nights.
Je sais pas s'il y a un S ou pas, je sais plus.
Pyjama, c'est Nike, c'est à cause des pyjamas. Ah, c'est bonnet pour protéger les cheveux.
Voilà, oui,
c'est
les pyjamas. Ouais, voilà,
pyjama,
c'est
ouais.
Bon, faut pas que je fasse des questions avant l'émission parce que sinon je
vais. Oui, voilà, sinon on va faire l'émission maintenant. Là.
Avant l'émission. Maintenant, ouais, petit un dernier mot pour nos auditeurs, une pensée, quelque chose, non?
Eh ben, garder la pêche, mais dire aussi qu'il y a un long week-end là, donc profitez-en pour vous reposer.
Exactement, ouais, c'est vrai que jeudi c'est férié.
Voilà.
Ceux qui la regardent sur vidéo, pas... Joe a dit profitez-en pour vous se reposer. Son regard est parti à gauche et à droite, laissant sous-entendre que le repos n'était pas
passé.
Pas
tout le monde se repose. Tout le monde se reposer.
Et bien, c'est Maki Pluriel, comme on dit. Prenez soin de vous et exactement. On se dit à mardi prochain.
Pas trop de
bêtises. À bientôt.
À bientôt.
On se retrouve mardi prochain. Au revoir.
Maki pluriel. Jana fatu juu ya la.